Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Samedi et dimanche dernier avait lieu le week-end national de comptage des oiseaux des jardins, organisé par la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, et le Musée national d'histoire naturelle. Chaque année, la LPO propose aux citoyens de compter eux-mêmes les oiseaux afin de fournir des relevés précis aux milieux scientifiques. Et ce n'est un secret pour personne, les populations d'oiseaux suivies par la LPO depuis 2002 sont pour la plupart, mais pas toutes, en diminution en Auvergne-Rhône-Alpes. Boris Misiak est coordinateur et chargé de mission pour la LPO. Il est avec nous ce matin. Bonjour Boris.
Bonjour.
Alors c'est la 8e année consécutive que vous invitez les citoyens à participer nombreux au premier comptage annuel des oiseaux de jardin. Pourquoi on compte les oiseaux et pourquoi on compte les oiseaux l'hiver?
Alors on compte les oiseaux pour avoir des données et qui vont s'inscrire dans une base de données qu'on a et qui est en lien, en partage avec le Muséum National d'Histoire Naturelle et le dispositif de science participative Oiseaux des Jardins. Donc en fait, cette base de données, elle va nous apporter une vision du territoire et des oiseaux qu'il peut y avoir sur ce territoire dans les milieux et nous montrer en fait, à un moment donné, en fait, si dans tel milieu naturel, dans un champ ou dans un milieu agricole, il y a une baisse des oiseaux, essayer de comprendre pourquoi il y a cette baisse des oiseaux et pouvoir comprendre la menace, en fait, les menaces qu'il peut y avoir sur les oiseaux. En l'occurrence, par exemple, sur le milieu agricole, ça peut être l'intensification des pratiques avec la disparition des haies.
Mmh. On va en parler tout à l'heure des différentes menaces pour les oiseaux. Est-ce qu'il y a d'autres moments propices? On fait un comptage national en janvier et un autre au printemps. Pourquoi ces deux moments particuliers?
Alors deux moments particuliers parce que là on est sur la période où on fait en hiver, donc où on peut observer les oiseaux assez facilement au jardin si on a une mangeoire. Même sans mangeoire, hein. Parce que justement il n'y a pas de feuilles dans les arbres, voilà, ils sont facilement identifiables. Et puis ils sont surtout très colorés, très beaux, puisqu'ils ont pris leur parure nuptiale pour commencer la reproduction. Et ils sont en recherche de lieux, d'habitat pour nidifier, et du coup facilement visibles. Et la seconde qui a lieu donc le 23-24 mai cette année, c'est parce que justement les oiseaux ont nidifié, il y a les petits une grosse partie des petits des oisillons qui sont sortis et que du coup on peut les compter aussi la reproduction de l'année, la nichée de l'année.
Est-ce qu'il faut être un expert pour compter les oiseaux? Comment on fait?
Ah non, bah alors il n'y a pas besoin d'être expert, juste il faut être très observateur. Il faut du coup reconnaître, identifier les oiseaux. Et pour ça, en fait, c'est assez facile pour quelqu'un qui est habitué. Mais c'est accessible en tout cas grâce en observant la couleur des oiseaux, la forme du bec, éventuellement les pattes, suivant les oiseaux. Et puis aussi, là c'est un peu plus complexe, mais l'habitat dans lequel ils se trouvent. Donc tout à l'heure je parlais de haies, voilà, par exemple, un oiseau qui va dans une haie, ça ne sera pas le même oiseau qui sera... alors même si après on peut les voir en envol, hein, mais s'il reste dans l'habitat, ce ne sera pas le même oiseau. Enfin, il y aura d'autres espèces qui vont par exemple se balader le long des troncs, tambouriner sur un arbre, qu'on va trouver en forêt, alors qu'on va en voir d'autres plutôt dans un champ, en train de voler au-dessus du champ. Voilà.
Alors là, c'était un comptage qui s'adressait plutôt aux catégories d'oiseaux ville et village, hein, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça, c'est le comptage oiseaux des jardins. Donc là, c'est vraiment lié au milieu jardin. Donc en général, haies, prairies, gazon, zone arbustive, on va dire, et puis éventuellement petits bois dans le jardin, quoi, et... Ouais, voilà.
Comment vous faites à la LPO pour compter les autres catégories d'oiseaux, ceux qui se retrouvent dans les champs, effectivement dans les forêts
Et alors là, on a des ornithologues qui vont sur le terrain, donc c'est mes collègues, et puis aussi beaucoup, beaucoup de bénévoles. Hein. On lance aussi en parallèle, et ça c'est chaque année depuis longtemps, un stock suivi temporel des oiseaux communs, on appelle ça. Et ce suivi temporel des oiseaux communs va nous permettre justement d'identifier encore une fois les baisses de population et puis d'identifier derrière les menaces. Alors ça c'est donc concrètement un ornithologue qui va sur le terrain avec des bénévoles. Il va se poser à des points d'écoute, par exemple à la rencontre de deux champs au milieu d'un chemin, et puis il va écouter justement tous les oiseaux qu'il va y avoir sur tout autour et noter. Donc là, ça nécessite vraiment de connaître les champs d'oiseaux. Et puis après, ça se fait aussi également à l'observation avec les jumelles et la longue vue.
Alors, on peut voir dans la communication que vous avez fait au mois de janvier que tous les types de populations ne sont pas touchés de la même façon. Notamment, les espèces des villes et des milieux agricoles ont diminué beaucoup plus, par exemple, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi ?
Alors, c'est dû... les menaces qu'on a identifiées... C'est donc au niveau des villes et des villages, l'urbanisation, les pratiques en fait au jardin, le fait justement, je parlais de gazon tout à l'heure, mais de vouloir tout raser, moins d'insectes. Alors, il y a des oiseaux granivores évidemment, mais lorsque les petits sont en plein développement, les oisillons, ils ont besoin de se nourrir d'insectes. Et puis, il y a des oiseaux qui sont également insectivores et granivores l'hiver, donc insectivores l'été et granivores l'hiver. Et pareil, du coup, beaucoup moins d'insectes. Donc, en fait, tout est lié, hein. C'est dû à la chaîne alimentaire et à nos pratiques, du coup, au jardin. Une haie, par exemple, qui est monospécifique, c'est-à-dire une haie uniquement de thuya, par exemple.
Une seule espèce,
voilà. C'est une catastrophe au niveau alimentation. Il vaut mieux avoir une haie diversifiée dans son jardin avec plusieurs essences. Hein, donc, en plus, c'est très joli. Et ça permet justement d'avoir des baies pour le merle, d'avoir une population d'insectes plus importante ou de papillons, par exemple, qui vont s'installer suivant les arbustes hautes, etc. Et du coup, on va avoir une profusion d'insectes, une diversité d'insectes, donc une diversité d'oiseaux qui vont se nourrir des larves, par exemple, les mésanges, qui aiment beaucoup les chenilles et les larves. Et pareil, la disparition, par exemple, aussi des arbres morts dans les jardins. Donc, on a tendance à couper tout de suite un arbre mort. Alors, si celui-ci est dangereux, évidemment, il est sur un passage, ça se comprend tout à fait. Par contre, s'il ne met en danger personne, il vaut mieux laisser un arbre mort.
Ça permet de nicher ?
Exactement. On va avoir les pics, par exemple, les pics épêches, qui vont pouvoir tambouriner dans les arbres et puis créer des loges. Ces loges, donc, ils vont l'utiliser pour se reproduire. Mais derrière, ils vont soit la réutiliser l'année d'après, soit l'abandonner. Et à ce moment-là, ça va être une mésange, par exemple, une mésange charbonnière qui va pouvoir nicher dedans. Ensuite, la maison charbonnière, elle va le délaisser l'année d'après. Et puis après, on pourra avoir une ruche d'abeilles mellifères, par exemple.
Pourtant, on a tendance à penser que la pollution, l'usage de pesticides serait l'unique source de menace, en fait, pour les oiseaux. Et c'est dans nos jardins qu'il diminue le plus.
Oui. Alors, il y a l'utilisation de pesticides au jardin, qui est énorme aussi. Donc c'est une des raisons aussi, hein, évidemment.
Le lien est clairement identifié. Comment on fait pour savoir ça ?
Alors, il est identifié dans le sens où... Non, c'est pas clairement identifié. Parce qu'en fait, on sait qu'il y a de l'utilisation d'engrais ou de produits phytosanitaires au jardin. Mais on l'identifie surtout par rapport aux champs. Voilà. Et du coup, en fait, là aujourd'hui, là où il y a des zones intensives de pratiques phytosanitaires... on a vu une baisse considérable des oiseaux, notamment l'alouette des champs, qui a diminué.
Alors justement, on va citer quelques exemples des tendances pour quelques espèces que vous comptez depuis 2002 quand même, depuis 18 ans. Et vous parliez de l'alouette des champs, on va l'écouter. Alors l'alouette des champs par exemple, oui. Va-t-elle bien ?
Alors non, elle va mal. On a une diminution importante de 11% depuis pas mal de temps, et en tout cas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est dû, voilà, à, encore une fois, à l'intensification des pratiques agricoles. L'alouette des champs, en fait, on l'observe en fait dans le ciel, au niveau des champs, en fait, quand elle s'envole, en fait, elle chante en s'envolant très haut dans le ciel, et puis après elle retombe. Voilà. Et du coup, en fait, comme c'est un oiseau qui est insectivore, malheureusement,
il y a sa diminution est vraiment corrélée à la diminution aussi de la population des insectes.
Exactement.
Il y a le merle noir aussi. Dans les espèces qu'on rencontre le plus couramment dans nos jardins. Alors le merle, c'est un peu l'exception, c'est un oiseau que vous pourrez entendre plus souvent.
Oui, alors plus souvent, oui, enfin, ça, après ça dépend...
C'est un peu tout relatif.
Voilà, ça dépend des endroits. Oui, j'adore le merle noir, son chant est magnifique. Alors du coup, c'est un oiseau qui se porte un peu mieux depuis certains temps. Au niveau régional... Hein. On a une augmentation de 5% et c'est pas énorme, mais sans doute dû peut-être à la conscientisation, en fait, de nos pratiques au jardin. Peut-être qu'il y a un peu plus de monde qui fait attention. Et puis aussi, à la création de nouvelles haies.
C'est difficile de savoir espèce par espèce, exactement. Par exemple, ce qui fait qu'elle diminue moins,
oui,
en fait.
Oui, c'est ça.
Alors, il est plus discret dans son champ, mais très présent aussi dans nos jardins. On le connaît bien.
Oui, le rouge-gorge.
C'est le rouge-gorge.
Oui. Alors,
Se porte le rouge-gorge?
Le rouge-gorge, il a un déclin de 11% en fait sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est pratiquement, c'est dû en fait pareil au niveau de la nidification en fait du rouge-gorge. Le rouge-gorge fait son nid en général au sol, dans les buissons, dans les ronciers, et encore une fois dans les jardins, on a tendance à vouloir couper tout ce qui est roncier,
tout ce qui dépasse,
et de faire un jardin à l'anglaise très propre. Et du coup, pour le rouge-gorge, c'est pas terrible au niveau de la reproduction. Après, on a tendance à avoir un rouge-gorge dans son jardin souvent l'hiver. On peut l'aider en lui donnant par exemple des larves qu'on peut trouver en jardinerie, des larves de ténébrions, en fait, les vers de farine. On peut lui donner ça, il adore ça. Et puis après, sinon, il vient grignoter en fait les petits morceaux de graines qui restent, les restes de la mangeoire, par exemple. Alors, il y a une petite anecdote sympa sur le rouge-gorge, je ne sais pas si je vous la fais. C'est que le rouge-gorge, en fait, il a une gorge orange, pas totalement rouge, c'est pour ça qu'il s'appelle le rouge-gorge, familier, donc très proche de nous. Et du coup, en fait, cette gorge, elle signifie attention, danger, comme tout ce qu'il y a dans la nature, une baie rouge qui peut être toxique, par exemple. Et c'est pour ça qu'on utilise le rouge, nous, pour dire attention, danger, ou en tout cas porter l'attention. Et donc le rouge-gorge, c'est le même système, en fait. Lorsqu'il occupe un territoire l'hiver, c'est en général, le territoire est très petit. C'est notre jardin, c'est pas très grand. Et donc, il vient s'installer. Et si, du coup, il y a notre rouge-gorge qui arrive, il va pouvoir porter son attention sur la couleur rouge du rouge-gorge. Et en général, ça va mal se finir. En général, ça va se finir en combat très, très violent. Il y a une étude qui a été faite, justement, avec une petite marionnette de rouge-gorge. Et en fait, le rouge-gorge l'a complètement détruite. Parce que le truc pour le rouge-gorge, c'est que s'il perd son territoire, il meurt de toute façon. Parce que le temps d'aller chercher un autre territoire dans un autre jardin, en fait, il se met en péril, surtout en période hivernale. Donc voilà, et c'est assez particulier parce que du coup, c'est des coups d'ailes, des coups de bec, des roulades au sol. Enfin, c'est impressionnant.
Voilà. On va parler maintenant, Boris Misiak, d'une autre initiative de la LPO qui concerne plus précisément notre territoire de Diolfi. Mmh. L'idée cette fois, c'est de créer un atlas de la biodiversité sur le territoire de Diolfi. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est ?
Alors, c'est donc l'ABCD, hein, Atlas de la biodiversité communale de Diolfi, c'est récolter un maximum de données naturalistes sur l'ensemble du territoire. Donc c'est l'Office français de la biodiversité qui met ça en place, qui propose en fait aux communes ou à des agglomérations de pouvoir faire un comptage précis de l'ensemble des espèces qu'il peut y avoir sur leur territoire. Donc pour Diolfi, on part sur 3 ans et on a identifié 3 taxons, c'est-à-dire qu'il y aura les papillons, les amphibiens, donc grenouilles, etc., salamandres, et puis les chauves-souris. Alors après, c'est ouvert à l'ensemble de la biodiversité, mais on est parti sur ces 3 taxons-là pour avoir des données très précise des espèces qui sont présentes sur Diolfi. Et pourquoi ? Parce qu'on a besoin derrière de connaître aussi la santé des habitats. Ce sont des espèces plutôt parapluies qui nous montrent en fait que les habitats, les milieux naturels sur Diolfi vont bien se porter. Par exemple, les papillons, ça va nous apporter la santé des prairies sèches et des prairies fleuries, etc. Et du coup...
Ce sont des indicateurs de bonne santé.
Exactement, c'est ça, voilà, c'est indicateur de bonne santé, ouais. De l'environnement, quoi, et des milieux. Les amphibiens, ça va être plus les zones humides, mares, etc. Et les chauves-souris, plus axées sur le bâti.
Alors, il va y avoir une première réunion de présentation du projet, le mercredi 29 janvier à 18h30, à la halle de Diolfi. Comment ça va se passer concrètement ? Comment est-ce qu'on va pouvoir participer à la création, à la constitution de cet atlas, de cet ABCD ?
Oui, c'est le but. Le but, c'est de participer, de faire participer un maximum les citoyens. Donc en fait, nous, on est parti sur un programme pour cette première année où on va avoir déjà un premier temps en fait, d'échange avec les citoyens de Diolfi à travers cette réunion, mais aussi derrière avec une petite formation sur comment on va pouvoir entrer les données. Les outils en fait qu'on va utiliser. Et puis derrière il y aura on appelle ça des journées d'enquête naturaliste où on va aller sur le terrain avec les citoyens et on va pouvoir et puis les experts de la LPO et on va former en fait les gens à pouvoir identifier les espèces qui sont présentes sur ce terrain là. Donc là on va déterminer avec justement les citoyens les terrains en fait
d'études,
voilà. Et puis il y a également une partie aussi animation scolaire où on va faire vivre des animations, un projet pédagogique sur 3 séances avec les écoles de Diolfi ou l'accueil de loisirs éventuellement.
En quoi la création d'un atlas de la biodiversité permet en fait, après coup vous avez dit que ça durait 3 ans, en quoi ça peut permettre la mise en place par la suite de projets de protection de notre environnement ? Comment ça s'articule ?
C'est simple, on va émettre des préconisations en fonction de chaque donnée qu'on va avoir, les analyses qu'on va pouvoir en faire. Et voilà, par exemple, recréer des corridors écologiques par rapport à une zone humide qui va se trouver à un endroit, une autre zone humide, et la dynamique des populations. Donc, c'est-à-dire, s'il y a une rupture de corridor, par exemple une route ou quoi, on va essayer de proposer des choses, des aménagements supplémentaires à faire pour la commune, mais aussi pour les privés. Voilà, création d'une mare, création de haies, etc.
Qu'est-ce qu'on connaît actuellement de l'état de la biodiversité à Diolfi? Qu'est-ce qu'on sait actuellement biodiversité?
C'est aujourd'hui qu'au niveau de l'espace naturel sensible, on a une belle dynamique de population d'animaux, parce qu'il y a eu toute une étude de fait en lien avec la municipalité et puis le département dans le cadre des espaces naturels sensibles. Et notamment, on a intervenu aussi sur les oiseaux, etc. On n'a pas de données précises. On a des données d'observation parce qu'on a quelques sympathisants LPO sur le coin qui vont justement inscrire leurs observations via notre site Fondrome. Là, du coup, on va pouvoir avoir une analyse. Ce travail, on ne le fait pas forcément... on ne le fait pas localisé, c'est-à-dire qu'on va prendre le territoire et on va avoir un ensemble de données, mais voilà. Là, en l'occurrence, l'ABC va nous permettre justement d'analyser ce qu'on a, donc l'existant, et derrière, justement, de voir ce qui nous manque et de pouvoir... pour avoir un état précis, ou en tout cas des généralités, de dynamique de population de la faune à Diolfi, un état initial, en fait, cet état initial, il sera donné justement à la réunion de lancement
du mercredi 29.
C'est ça, exactement.
D'accord.
Donc, faut pas hésiter à venir.
C'est ouvert à tout le monde.
C'est ouvert à tout le monde, même à ceux qui connaissent rien, parce que le but, c'est justement qu'on apprenne, qu'on sensibilise aussi les personnes.
Vous pouvez devenir observateur de la nature.
Exactement. Facilement, grâce à l'ABC et puis aussi grâce à vos yeux et à vos oreilles, tout simplement.
Merci Boris Misiak. Je rappelle que vous faites partie de la Ligue de protection des oiseaux. Le prochain comptage national se déroulera au mois de mai. Vous pouvez suivre les différentes actions de la LPO sur lpo.fr pour vous impliquer dans la préservation de la biodiversité de notre territoire de Diolfi. Plus particulièrement, rendez-vous à la Halle le 29 janvier à 18h30 pour la première réunion. On en parlait à l'instant au sujet de l'inventaire de la biodiversité, l'ABCD. C'est ouvert à tous. Merci Boris.
Merci.
Et à bientôt.
À bientôt.
Radiola.media.